Bonjour, ici Radio Grand Ciel Châteaudun, à la régie Jean-Claude et Bernard, au micro Henri. Nous allons vous compter dans l'émission pour les petits et aussi les grands, la légende de la Vierge du cloître Saint-Roch. Il y avait autrefois à Châteaudun un cloître dont subsiste la rue du même nom qui était tout près du château et ce cloître n'existe plus maintenant, mais cette histoire s'est déroulée dans ces lieux. À la tombée de la nuit, un soir de Noël 1556, arrivé au faubourg Saint-Jean par un chemin raboteux, devenu la rue des Demoiselles, un pauvre pèlerin âgé, barbu, loqueteux et tout crotté, dont nul n'a jamais su le nom. Le tintement joyeux des cloches de l'église Saint-Jean, toute proche, sonnant l'Angélus, il se rendit au pied de la niche du grand Saint-Antoine pour y dire une prière et se reposer un instant, car l'étape avait été longue. Après avoir franchi les grosses chaînes que l'on plaçait chaque soir pour barrer le passage au chariot entre le bourg et la ville de Châteaudun, il passa le Loir, peu profond, il est vrai, sur les larges pierres plates qui constituaient le seul gué qui est face au lavoir actuel, au pied du château. Puis il longea l'église dédiée à M. Saint-Médard, où les reliques de Saint-Aventin étaient toujours exposées, et se présenta, grelottant de froid, car la bise était rude, au guichet de la porte d'abat, où, par bonté, les portiers l'avaient laissé entrer. Ayant délaissé la traditionnelle mais plus longue route des pèlerins, le pauvre R s'achemina paisiblement, la besace au dos, une viole sous le bras, par la rue Saint-Lubin, en direction du château. Quelques fenêtres aux petits carreaux verdâtres laissaient voir à l'intérieur des maisons, de ci, de ça, les grandes cheminées, des visages rougis par les feux de fagots et les lampes à huile, les tables déjà garnies avec de grands pichets, et laissaient filtrer les rires joyeux des enfants, le fumet des volailles rôties et l'odeur âcre et huileuse des beignets et des galettes. Après avoir poursuivi sa montée, il passa devant la maison à pans de bois très décorée, la maison dite de l'âne vert, celle aussi du cœur navré, celle du dauphin et d'autres encore, tout aussi joyeuses. Puis il contourna l'église Saint-Lubin, dont on voit encore les ruines, et se présenta à la porte du château du Bâtard, en caressant l'espoir d'obtenir par sa musique et ses chansons, un peu de nourriture près des cuisines et de la paille près des chevaux aux écuries. Cette nuit de Noël était sombre. La neige tombait doucement. Seul le donjon faisait tache dans le ciel. De loin, la grande salle des gardes, nouvellement terminée, paraissait brillamment éclairée par les torches. Une grande animation y régnait. Là aussi, on se préparait à fêter Noël joyeusement. Mais après bien des appels, le guichetier bourru lui conseilla avec force Quolibet de continuer son chemin s'il voulait s'éviter la bastonnade. Les gendarmes n'aimaient pas les loqueteux. Il se dirigea alors vers la grande église Sainte-Madeleine par la rue de la Cuirasserie, passa devant la maison à tourelle, la grande croix de pierre qui se dressait au milieu du cimetière devant l'église, devant la maison Dieu. L'église était fermée. Il fit quelques pas et souleva le lourd manteau de l'abbaye de la Madeleine. Mais, comble de la malchance, là encore, soit le père portier fut trop occupé par les préparatifs d'une si grande fête, soit qu'il eût commencé déjà ses oraisons, personne ne répondit. Au hasard dans la rue, il frappa sans conviction à quelques portes. Nul ne se montra. On était prudent à cette époque, non sans raison d'ailleurs, les brigandages étant très fréquents. Ne trouvant pas où se coucher et ne sachant plus que faire, il voulut sortir de la ville par la porte du guichet, la plus proche, sûr ensuite de trouver une meule de paille ou de foin pour s'y blottir afin d'y passer la nuit, non sans avoir entendu la messe de minuit à Saint-Valérien hors les murs. Mais l'heure était trop tardive et les ordres sévères. Il ne put passer.
Douce nuit, sainte nuit, dans les yeux l'astre nuit, le mystère annoncé s'accomplit. Cet enfant sur la paille endormi,
en plus désolé et fatigué, il reprit sa besace et erra à l'aventure de ruelle en ruelle. Il finit par échouer à la porte de la chapelle dédiée à Monsieur Saint-Roch, qui s'élevait alors au milieu du cloître du même nom. La foule avait déjà envahi la grande nef. Il se faufila comme il put, car la messe de minuit venait de commencer. Trouva place près d'un pilier de pierre contre lequel il s'appuya. La multitude, les lumières des cierges, les chants, cette odeur d'encens qui flottait, tout cela lui faisait du bien. le réchauffait. L'estomac le tiraillait bien un peu, mais il était absorbé par ailleurs. Que de souvenirs heureux, cette cérémonie ne réveillait-elle pas en lui. Noël de son enfance, et puis. Le service divin terminé, les fidèles se dispersèrent par groupes, par familles, à la lueur des lanternes, au milieu des cris et des rires. Notre pauvre pèlerin vit son supplice se renouveler lorsqu'il se retrouva seul, les pieds dans la neige, sans abri, sans pain, par cette nuit froide de Noël. Ignorant leur existence, l'idée ne lui vint pas de soulever le marteau de la porte de la grande maison du fond du cloître, habitée par les révérends chapelains qui desservaient alors la sainte chapelle du château et qui, très charitable, l'aurait sans aucun doute secouru. De plus en plus désemparé et là, à tâtons, il choisit un recoin de mur de la chapelle, à l'abri de la bise et de la neige, posa sa besace, son bâton et sa gourde vide, se recroquevilla dans sa vieille houppelande, appuya sa pauvre tête sur sa fidèle viole dont il se servit comme d'un oreiller, et, malgré le froid, s'endormit. Chose étrange, au pied d'une vierge de pierre qui tenait dans ses bras l'enfant Dieu. Son sommeil fut léger car le ventre était creux, mais s'il avait été possible aux rares passants de cette ruelle de le voir, ils auraient été bien surpris. Car la pauvre figure amaigrie de notre homme était rayonnante. Il rêvait et, dans son rêve, il jouait sur sa viole les plus beaux Noëls de son répertoire que la Vierge et l'enfant écoutaient en souriant et en jetant à ses pieds nus une bourse de soie garnie d'or. Et le plus merveilleux, c'est qu'à son réveil, fouillant ses poches rapiécées à la recherche de quelques croûtes durcies, afin d'apaiser sa grande faim, il y trouva la bourse de soie de la Vierge et de l'enfant Dieu. Tel se termine le conte de M. Georges Ackermann, écrit en 1956.
Sur le long chemin, tout blanc de neige blanche, un vieux monsieur s'avance avec sa canne dans la main. Et tout là-haut, le vent qui siffle dans les branches lui souffle la romance qu'il chantait petit enfant. Vive le vent, vive le vent, vive le vent d'hiver, qui s'en va si en soufflant dans les gros sapins verts. Oh, vive le temps, vive le temps, vive le temps d'hiver. Descend vers le village, c'est l'heure où tout est sage et l'ombre danse au coin du feu. Mais dans chaque maison, il flotte un air de fête. Partout la table est prête et l'on entend la même chanson. Vive le vent, vive le vent, vive le vent d'hiver.